deux épisodes dans la vie de Jésus et ses disciples, il nous offre à la fois un défi et un réconfort. Pour nous qui voulons suivre le roi Jésus en vivant ce royaume sur terre, nous avons besoin du réconfort. Et des fois, nous avons aussi besoin que quelqu'un nous lance un petit défi. Donc, en Matthieu 14, nous voyons les disciples en route avec Jésus. Et assez rapidement, en route avec Jésus, les choses deviennent un peu compliquées. Jésus vient d'apprendre que Hérode a exécuté son cousin, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus, qui prêchait lui aussi le règne de Dieu sur terre. Et maintenant, dans les deux épisodes qui suivent, on va trouver que la situation dépasse les disciples. Ils se trouvent face à des défis énormes. Et au lieu de simplement éliminer ces défis pour eux, Jésus les appelle à se plonger dans l'inconnu. De faire un pas de foi qui va les étonner. Nous allons lire donc le premier épisode à partir du verset 13, Matthieu 14, verset 13. À cette nouvelle, c'est la nouvelle que Jean-Baptiste a été exécuté. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et j'ai dit qu'on a déjà lu cet épisode, mais en fait c'était un autre dans l'évangile de Marc, si je me souviens bien ce que tu as lu. Et là, il y avait 4 000. C'est un autre épisode, mais encore la même chose. Et encore une fois, nous trouvons cette phrase que nous avons vue il y a quelques semaines. Jésus fut rempli de compassion. Même quand il est dur avec les gens, Jésus est rempli de compassion parce qu'il les aime. Le bon berger sait où se trouvent les eaux paisibles. Ici, comme dans Matthieu 10, Jésus voit les foules et il réagit par compassion. Même ici, au moment où il s'était retiré précisément pour se ressourcer, les parents dans la salle, surtout les mamans, vous savez bien ce que c'est de trouver enfin 5 minutes pour vous-même. 5 minutes de calme, peut-être à la fin de la journée, et puis d'entendre la foule qui arrive. La foule qui arrive, « Maman, où sont mes chaussures? Maman, j'ai faim. Maman, il m'a tapé dessus. » C'est épuisant, des fois. Surtout si on est déjà découragé ou particulièrement fatigué, comme Jésus aurait pu l'être à ce moment dans son ministère. Jésus se retire souvent pendant son ministère, en particulier avant de commencer une nouvelle phase, comme après son baptême par exemple, et avant la crucifixion. Mais ici, il vient d'apprendre que Jean-Baptiste a été exécuté par Hérode. C'est certain que Jésus soit triste en ce moment, tout comme il est triste après la mort de son ami Lazare. Il est aussi probable que Jésus voit dans l'exécution de Jean une préfiguration de sa propre mort. Jésus vient d'être rejeté par le peuple de Nazareth. Jean a été tué et la pression monte sur Jésus. Il voit que le chemin devant lui l'amène directement vers Jérusalem et la croix. Mais au lieu de le refuser, il se prépare. Il se ressource auprès du Père pour gérer ce qui vient de se passer et pour gérer ce qui arrive. Même pour Jésus, cette vie terrestre a été parfois difficile et triste même. Mais quelque part, c'est ça la beauté de l'Évangile, n'est-ce pas? En devenant homme, Dieu lui-même a accepté de souffrir avec nous, comme nous. Jésus souffre parfois dans cette vie terrestre. Mais ce qui est remarquable chez Jésus, c'est la façon dont sa tristesse ici pour Jean, pour la perte de son ami, pour sa propre mort qui arrive maintenant à grand pas, cette tristesse se transforme en tristesse pour la foule. Et la tristesse devient la compassion, et la compassion l'amène à l'action. Et finalement, au lieu d'être frustré par la foule, Jésus est rempli de compassion. Ce n'est pas une réaction naturelle. La réaction naturelle, ma réaction dans ce genre de situation, malheureusement des fois, notre réaction lorsque nous sommes tristes et déçus par la vie, c'est de nous focaliser sur nous-mêmes, sur notre propre douleur. Et à ce moment-là, les besoins des autres nous irritent, ils nous frustrent. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, notre propre douleur peut devenir le moteur qui nous pousse à penser aux autres. Quand vous êtes triste et découragé, est-ce que vous vous enfoncez dans votre tristesse ou est-ce que vous la donnez à Jésus? Non, non pas qu'il l'efface, mais qu'il la réoriente, qu'il la transforme en compassion pour les autres et que cette compassion soit transformée en action. C'est sûr que ce n'est pas forcément facile, c'est un processus, ça vient de la maturité en Christ. Mais au fur et à mesure que nous vivons dans la présence du Christ, nous apprenons petit à petit à réagir comme lui, quoique très imparfaitement. Et ce qui se passe aussi pour les disciples, c'est ce qui se passe pour les disciples dans ce passage, eux aussi auraient été attristés par la mort de Jean-Baptiste et ils auraient eu peur que la même chose leur arrive s'ils continuent avec Jésus. Verset 1 de ce chapitre nous dit effectivement que Hérode avait entendu parler de Jésus. Et il s'imaginait que c'était Jean-Baptiste revenu à la vie. Vous voyez là le danger? Jean-Baptiste vient de se faire exécuter. Et Hérode imagine que Jésus est Jean-Baptiste revenu à la vie. Les disciples sont en danger. Jésus est en danger. Mais après un certain temps avec Jésus, après avoir vu sa compassion pour les foules, les disciples commencent à voir les autres avec la compassion de Jésus. Du coup, à la fin de cette journée très fatigante, quand ils viennent à Jésus avec une idée, renvoient la foule pour qu'ils puissent manger. On peut bien croire que ce n'était pas juste qu'ils voulaient se débarrasser de la foule, mais qu'ils se souciaient, comme Jésus, de leurs besoins. Jésus, ils disent, ces gens doivent avoir faim. Nous devons les renvoyer. En même temps, il y en avait probablement certains qui avaient juste hâte d'être seuls avec Jésus. Et d'autres pour qui les motivations étaient peut-être mélangées. En tant qu'être humain, nos motivations sont presque toujours mélangées. Et quoi qu'il en soit, les disciples ont bien fait de suggérer qu'on pense aux besoins de la foule. Mais ils n'ont pas encore complètement compris comment Jésus fonctionne. Parce que Jésus va prendre leur idée et il va la renvoyer en allant encore plus loin. Vous vous souvenez? Il dit, mais non, s'ils ont faim, donnez-leur vous-même à manger. Peut-être qu'à ce moment-là, les disciples ont regretté d'avoir dit quelque chose. On peut bien imaginer la conversation entre les disciples après la réponse de Jésus. Tu vois, Je t'ai dit, il faut rien dire. C'était pas mon idée. C'était Pierre, c'est toujours Pierre. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il nous dit de leur faire manger, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc, les disciples se tournent vers Jésus et ils répondent, « Ah oui, Jésus, nous aimerions bien faire ce que tu dis, mais nous ne pouvons pas, parce que nous n'avons rien à leur donner. Ce que tu suggères nous dépasse. On ne peut rien faire. » Combien de fois disons-nous, « Ah, Jésus, j'aimerais bien faire ce que tu demandes, mais franchement, je ne peux pas. C'est trop. » Mais c'est souvent comme ça, sur le chemin avec Jésus. Nous voulons le suivre, nous voulons être comme lui, parce qu'en lui, nous voyons ce que nous cherchons. Nous voyons qu'il est rempli de compassion. En lui, nous voyons l'amour de Dieu lui-même fait chair. Mais ce n'est qu'en le suivant que nous nous rendons compte de ce que ça veut dire vraiment, que nous allons devenir des canaux de cet amour surnaturel. Et ça, c'est une mission qui nous dépasse. Donc nous venons vers Jésus avec notre petite idée de ce que ça signifie de le suivre. Et il nous la renvoie avec un défi. Tu veux être comme moi? Alors fais comme moi. Tu veux que ton voisin mange? Alors donne-lui à manger. C'est bien d'amener les besoins des autres devant moi, Jésus nous dit. Il faut toujours commencer en me parlant. Mais tu es mon disciple. Tu es mon image dans ce monde. Tu as le Saint-Esprit en toi. Pourquoi ne pas faire quelque chose toi-même? Dès que nous la donnons à Jésus, notre petite idée d'une vie de service revient vers nous, transformée en quelque chose d'énorme et impossible. Donc, soyez pas surpris si vous vous trouvez face à quelque chose qui vous paraît impossible. Et là, nous protestons. Mais Jésus, non, je veux pas, je peux pas. Tu m'as mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais que toi, tu fasses quelque chose. Moi, je n'ai rien à donner. Je peux rien faire. Mais toi, tu peux le faire. Et pourtant, Jésus nous demande d'amener le peu que nous avons et d'être prêt à prendre le prochain pas. Même si ça nous paraît complètement fou. Pour vous donner un exemple. Un exemple concret, quand nous avons commencé ce projet bâtiment, franchement, nous sommes venus à Dieu avec une idée. Seigneur, cette église a besoin d'un nouveau local. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais imaginé que ça entraînerait un processus d'un an et demi pour lequel je ne me sentais pas du tout capable. Et qui n'est pas encore terminé, d'ailleurs. Dieu nous a appelés à donner le peu que nous avions pour qu'il le multiplie. Au niveau financier, oui, mais surtout au niveau de nos capacités, de notre connaissance et même de notre foi, que Jésus le multiplie. C'est Jésus qui est en train de multiplier ces choses en nous cette année. Peut-être vous, dans votre vie personnelle, vous trouvez face à une tâche, une mission comme ça. Il y a un besoin dans ce monde qui te touche ou que Dieu a mis devant toi. Et tu lui demandes d'agir. Mais au fond de toi, tu sais qui t'a renvoyé la balle en disant « Bonne idée, pourquoi pas faire quelque chose toi-même » Non pas pour que tu le fasses seul. Jésus ne te laisse jamais seul. Comme Jean-Serge a dit la semaine dernière, le commandement d'aller faire des disciples à la fin de cet évangile, ça devient tout de suite « Allons, faisons ». Des disciples, parce que Jésus promet d'être avec nous. Mais l'un des grands mystères de la Bible est que Dieu choisit d'accomplir sa volonté à travers son peuple, des êtres humains faibles et imparfaits. Et pour ma part, je pourrais parler longuement de la façon dont Dieu a agi comme ça dans mon ministère, mais je pourrais parler même plus longuement de la façon dont il a fait ça dans mes relations, surtout dans ma famille. Quand je suis dans le besoin, Dieu réagit toujours. Mais il va toujours faire en sorte que moi, je dois agir aussi. Vous, tu pries que ton épouse ou que ton époux soit béni, qu'elle soit heureuse, que tes enfants se sentent aimés, qu'ils connaissent l'amour de Dieu, la première question que Dieu va te poser, c'est « Alors, est-ce que tu les aimes ?» Tu veux que ta femme soit bénie, que ta femme soit bénie? Es-tu, alors, es-tu une bénédiction pour ta femme? Es-tu une bénédiction pour ton époux? Tu veux que tes enfants ou que tes amis soient bénis? Es-tu une bénédiction pour eux? En tout cas, c'est ce que Jésus me demande toujours. Comme ici avec les disciples. Et ma réponse, comme la vôtre, j'imagine, c'est de dire, je veux l'être. Et je pense l'être de temps en temps, mais finalement, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Que puis-je faire vraiment? Et parfois, ça, c'est juste une excuse, vous savez, parce qu'en fait, parfois, j'ai 10 pains et 3 poissons. Mais de toute façon, que puis-je faire vraiment? Parfois, je veux garder mes poissons et mes pains pour moi-même. Et il faut que je la confesse. Mais de toute façon, quoi que j'ai, ce ne sera jamais suffisant. Que ce soit 2 ou 4 ou 10 poissons, ce ne serait jamais suffisant avant que Jésus les multiplie. Ce que tu as ne sera jamais suffisant avant que tu le donnes à Jésus. Parce que ce n'est que lui qui peut le multiplier. Jésus peut prendre tes 2 poissons et en faire 2000. Mais pour ça, il faut que tu les lui donnes. C'est intéressant, n'est-ce pas? Jésus aurait pu donner à manger à toute la foule sans prendre les pains et les poissons des disciples. Vous vous en souvenez, Dieu l'a fait à partir de rien pour les Israélites dans le désert avec la manne. La manne est tombée directement du ciel. Jésus aurait pu faire tomber le pain du ciel, mais il a choisi plutôt de multiplier celui des disciples. Parce qu'en même temps qu'il enseigne la foule, il enseigne les disciples. Ce que vous avez, vos biens, vos dons, vos talents, votre amour, votre foi, donnez-les-moi et je vais les multiplier. Jésus nous lance le défi aujourd'hui. Donne-moi ce que tu as. Donne-moi ton idée et je vais la multiplier. Donne-moi tes rêves et je vais les multiplier. Donne-moi tes dons et je vais les multiplier. Non pour ta gloire, mais pour la mienne. Et surtout, donne-moi ta vie. Et ça aussi, je vais la multiplier. Jésus nous appelle à agir pour qu'il puisse multiplier ce que nous apportons à lui. Et à la fin de ce premier épisode, les disciples ont compris ça. Au moins, je pense que Pierre l'a compris. Parce que voici ce qui se passe la nuit après. Vous vous êtes jamais rendu compte, l'histoire de Jésus, quand il fait manger à la foule, est suivie directement par cet autre épisode. Verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Bien. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, il empoigna et lui dit, « homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ici, pour la deuxième fois, dans 12 heures, les disciples se trouvent dans une situation qui les dépasse complètement. Ils ont passé toute la nuit sur le lac, battus par les vagues. Ils ont déjà vu Jésus calmer les vagues une autre fois. Ils savent que Jésus peut le faire, mais cette fois-ci, Jésus n'est pas là. Il n'est pas dans la barque avec eux. Ce n'est pas qu'il les a oubliés ou qu'il ne sait pas ce qui se passe, mais Jésus se révèle dans notre vie tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et cette fois-ci, Jésus va aller beaucoup plus loin que simplement calmer les vagues. Cette fois-ci, il va marcher dessus. Vous savez, dans le monde ancien, la mer représentait le chaos. La mer était la partie de la création la plus sauvage et la plus puissante qui existait. C'était un grand espace d'eau puissante et imprévisible, parfois calme, parfois très violente. Quand Dieu commence la création, l'Esprit plane sur les eaux et commence à mettre de l'ordre dans le chaos. Et en Apocalypse 21, verset 1, nous lisons que sur la nouvelle terre, la mer n'existera plus. Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi la mer n'existera-t-elle plus? Parce que de façon spirituelle, la mer symbolise le chaos. Et tout ce qui menace de nous noyer dans cette vie n'existera plus à ce moment-là. La mer était le chaos. On lit au psaume 69, le psalmiste écrit « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue, sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. » Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Quelle description de ce que nous pouvons expérimenter des fois dans cette vie. Qui d'entre nous n'a jamais eu cette impression d'être tombé dans l'eau profonde qui nous emporte? Moi, je me souviens bien de la première fois où j'ai pu me baigner dans l'Atlantique. J'avais 12 ans à peu près et j'étais avec mes parents en Floride. Ce n'était pas la première fois pour nous à la mer, mais les autres fois, j'étais petit. Et si j'entrais dans l'eau, c'était toujours avec mes parents qui me tenaient par les deux bras pour que je puisse sauter dans les vagues. Mais cette fois-ci, en Floride, à l'âge de 12 ans, j'avais une sorte de bodyboard. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une planche pour surfer un peu sur les vagues. Et moi, j'allais le faire seul. Mes parents m'avaient averti de faire attention aux grandes vagues, parce que même si l'eau n'était pas si profonde, une grande vague pourrait quand même me faire du mal. Et bien sûr, moi, j'ai dit ce qu'on dit toujours quand on est jeune. « Ah oui, oui, maman, t'inquiète. » Mais je me souviens aussi d'avoir pensé, je ne l'ai pas dit, mais je pensais franchement, c'est juste l'eau. Quand même, maman, c'est du liquide. Et moi, je suis presque un homme. Qu'est-ce qu'elle peut faire, vraiment? Et je me posais cette question jusqu'à ce qu'une grande vague m'a arraché de mon bodyboard et m'a plaqué contre le fond en me roulant vers la plage. Et à ce moment-là, il n'était pas du tout question de nager ou même de bouger un bras, d'autant moins de me mettre debout. L'eau était tellement puissante que moi, je n'avais pas de choix. Il fallait attendre, c'est tout. J'ai dû attendre que la vague me jette sur la plage, en espérant que mes bras et mes jambes ne seraient pas tous cassés. Peut-être que c'est votre état d'esprit. Aujourd'hui même, vous espérez qu'un jour, la mer va vous jeter et vous espérez au moins que tout ne sera pas cassé. Moi, heureusement, ce jour-là, j'ai pu sortir sans rien de cassé. Mais j'avais appris qu'il y a bien des choses dans ce monde qui dépassent ma force. Les disciples n'étaient pas aussi bêtes que moi. Ils étaient pêcheurs. Ils connaissaient bien la puissance de la mer. Et pourtant, quand ils voient Jésus, Pierre, qui connaissait bien la puissance des vagues, Pierre se souvient de ce qu'il vient de voir avec la foule. Jésus était quelqu'un qui méritait d'être suivi. Jésus avait la puissance de gérer la situation. Il avait le pouvoir de multiplier le peu de ce qu'on avait. Et pour ça, Pierre l'a compris. Il fallait le lui apporter. Et Pierre, il est prêt, non pas juste à amener ses pains et ses poissons, il est prêt à apporter lui-même à Jésus. Là, au milieu du chaos, Pierre reconnaît que la chose la plus sûre est d'être à côté de Jésus. Même si pour ça, il doit se plonger même plus profondément dans le chaos. Parce que ce même Jésus est celui qui a calmé les eaux et qui a créé la terre du chaos. Et on dit donc parfois que pour marcher sur l'eau, il faut sortir du bateau. Vous n'avez jamais entendu ça? Pour marcher sur l'eau, il faut sortir du bateau. Et c'est vrai. Dans ces deux passages, la parole nous pousse à agir, à avoir une foi active, à sortir du bateau. Mais souvenons-nous, on ne marche pas sur l'eau juste pour marcher sur l'eau. On marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Du coup, si Jésus est dans la barque, moi je reste dans la barque. Si Jésus est sur la montagne, moi je vais sur la montagne. Et si Jésus est sur le lac, moi je me plonge dans l'eau, qu'il me fasse marcher là-dessus ou pas. Je ne sais pas si vous trouvez que la vie vous dépasse en ce moment. Peut-être qu'elle vous semble assez gérable. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont cette impression en ce moment. Mais si la vie vous semble assez gérable, dans ce cas-là, il faut peut-être se poser la question honnêtement. Est-ce parce que je suis resté dans le bateau alors que Jésus m'appelle sur les eaux? Peut-être pas. Je ne peux pas vous dire. Parfois, Jésus reste dans la barque. Parfois, il se repose avec ses disciples au bord du lac. Parfois, il se retire avec eux pour se ressourcer avant la prochaine étape. Mais tôt ou tard, Jésus nous appelle tous à le suivre dans le chaos, de faire manger à la foule avec nos petits pains et nos petits poissons, de nous jeter sur l'eau avec notre petite foi, parce que c'est là où il va la multiplier. C'est là où nous apprenons à lui faire confiance, parce que sa grâce nous suffit. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Jésus a dit aux disciples de faire manger la foule, alors qu'il savait bien qu'il n'avait que quelques pains et deux petits poissons. Et Jésus a invité Pierre à sortir du bateau, alors qu'il savait bien que Pierre n'avait qu'une petite foi. Pourquoi a-t-il demandé à Pierre de sortir? Parce que quand nous sommes petits, Jésus est grand. Les disciples et Pierre avaient la bonne idée. Ils voulaient suivre, ils voulaient vivre leur foi avec Jésus. Et au moment où ils ont commencé à s'enfoncer, il serait là pour lui tenir la main. « Seigneur, sauve-moi !» Pierre s'écrie. Que ce soit le cri de nous tous. Tôt ou tard, Dieu va t'appeler à entrer dans le chaos, dans l'inconnu avec lui. Tôt ou tard, Jésus va te demander de faire quelque chose dont tu ne te sens pas du tout capable. Et quand ça arrive, au milieu de la confusion ou de la peur même, tu peux être reconnaissant. Parce que c'est à ce moment-là où tu peux crier à Jésus, « Seigneur, sauve-moi. » Je ne sais pas si vous avez dans votre vie aujourd'hui, cette semaine, vous savez qu'il y a un pas de foi qu'il faut faire. Peut-être c'est venir à Jésus pour la première fois. Peut-être c'est renoncer à quelque chose. Peut-être c'est un besoin auquel Dieu t'appelle à répondre. Peut-être c'est un pas d'obéissance. Et tu as l'impression que si tu fais ce pas, si tu prends ce pas, tu vas tomber dans le chaos complet. Tu vas être noyé par les vagues. Tu vas être roulé tu vas être complètement sans puissance. Mais Jésus te dit, apporte-moi le peu que tu as, le peu de foi, le peu de capacité, le peu de don, le peu d'amour même. Apporte-moi le peu que tu as et je vais le multiplier par ma puissance. Je vous encourage cette semaine, ce jour même, de venir devant Jésus et lui dire, voici ce que j'ai, 2 pains, 5 pains, 2 poissons, 1 pain, 1 poisson, ou même les mains vides, et lui dire, voici ce que j'ai, je vous le donne. Parce que quand on le donne, nous trouvons que sa grâce est vraiment suffisante pour multiplier le peu que nous avons.